Hoy ando en un vacío casa oriental. Si el piso está al más
equipo.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Le 7 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la santé. C'est l'occasion pour les États et leurs gouvernements d'élargir la prévention, de renforcer les soins et intensifier la surveillance des épidémies qui sévissent et ravagent les populations. La RDC compte dans son système sanitaire plusieurs programmes qui constituent des réponses à des épidémies et autres pandémies. Mais certains observateurs estiment que le niveau de prévention et de prise en charge et même la lutte pour l'accès aux soins de santé appropriés et de qualité demeure encore un problème. Que faudrait-il pour améliorer la situation? 081-895-75. C'est le numéro d'appel si vous avez besoin de vous joindre à nous en direct dans cet échange. Julie Feza Bongonda est au standard. Didoné Nyangasa assure la mise en onde de ce magazine réalisé par J.R. Lungembo. Et Pierrot et la Mejie a le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Seboujango fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mejie.
Comment arriver à améliorer l'accès aux soins de santé, les réponses appropriées en termes de prévention des épidémies de maladies et dans la célébration de la journée mondiale de la santé que nous nous penchons sur ces sujets. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir comme cette discussion animée sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs avec par exemple le trésor Katubakia qui dit ceci, comment chercher à améliorer le système sanitaire en RDC au moment où un infirmier qualifié ayant fait 3 ans à l'université de Touche 27 000 francs congolais comme prime des risques parce qu'ils n'ont pas le même salaire que le médecin, il faudrait aujourd'hui améliorer la question de la disparité de salaire entre ceux-là qui s'occupent de la santé de la population. Bernard Bansenga, qui nous écrit de Kinshasa, droit à la santé, c'est un droit garanti par la Constitution. Autant de programmes de santé naissent les jours au jour, le gouvernement doit tout faire pour obéir à sa charge en tant que gouvernement. Sur le territoire national, combien d'hôpitaux dans chaque province sont approvisionnés par les gouvernements en médicaments pour lutter contre les maladies? Quelles sont les manifestations qui sont programmées aujourd'hui dans la célébration de cette journée? André Kalonji, qui est avec nous sur la page Facebook, il est étudiant à l'ISP Kananga. Quant à moi, le domaine de la santé a un impact positif sur notre vie. Le gouvernement de notre pays doit construire beaucoup d'hôpitaux et surtout dans les endroits qui sont plus éloignés pour permettre à ce que toute la population puisse accéder au sein de santé. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les amis auditeurs.
Voilà, le débat aujourd'hui, c'est comment ensemble nous pouvons dégager, définir des pistes et des solutions pour améliorer notre accès aux soins de santé en marge de cette célébration. Quel est votre point de vue?
Oui, merci Pierrot de l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus. Je pense que, Pierrot, lorsque je analysais cette question-là, je ne parviens pas vraiment à me retrouver parce que j'aime toujours le dire sur les antennes de la radio Capi que les domaines sanitaires, c'est l'un des domaines, pour ne pas dire l'unique domaine dans lequel où il y a beaucoup de partenaires qui interviennent. Donc, avec leurs moyens, avec leur mobilier, avec tout. Mais maintenant, au finish, nous rendons compte que la population n'a pas toujours l'accès facile donc aux soins de santé. Même si vous voulez accéder aux soins de qualité, c'est extrêmement alors cher, même dans des hôpitaux de l'État. C'est là que ça a toujours dépassé mon entendement. Maintenant, avec le sujet du jour, moi je pense que c'est une occasion pour que le gouvernement puisse un peu s'asseoir avec le partenaire, parce que autrefois, j'ai engagé cette discussion-là avec quelques médecins, donc de l'hôpital général de Kananga, et m'ont donné les raisons qui font à ce que la population ne puisse pas sentir l'impact donc de l'intervention des partenaires en matière sanitaire. Ils m'ont donné leur raison, mais moi je pense qu'il faut premièrement d'abord que le gouvernement congolais puisse d'abord définir la priorité ou bien la politique générale en matière de santé. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire de ce domaine de santé? Là, c'est de un. De deux, il y a aussi un problème des infrastructures qui pose le problème. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les hôpitaux utilisés, les matériels utilisés dans des hôpitaux, c'est vraiment un contraste. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Donc, les hôpitaux sont difficiles. Parce que je me rappelle la dernière fois, lorsque j'étais à Ilebo, c'est un pasteur, donc un apôtre d'une église donc de la place, le moissonneur, qui est intervenu pour donner les dons. On a construit un pavillon, et si vous arrivez aujourd'hui à Ilebo, vous verrez que ce pavillon-là, c'est au nom de cet apôtre-là, je ne me l'ai pas cité son nom, un bienfaiteur, il a fait ça. Et puis, lorsque vous entrez maintenant dedans, il y a disparité de prix. Si vous êtes entré dans ce pavillon, vous êtes obligé de payer très cher, et si vous êtes dans d'autres pavillons, vous payez moins cher. Et avec quel type de médicaments, quel type de produits? La plupart de nos hôpitaux n'ont plus encore les médicaments. Lorsque vous y entrez, vous êtes obligé, après la consultation, on vous donne une ordonnance, vous êtes obligé d'aller chercher vous-même donc le produit avec tous les risques possibles que cela peut engendrer. Donc c'est comme ça que moi je pense que premièrement, il faut définir la priorité par le gouvernement et la politique. Deuxièmement, il faut quand même que les partenaires se mettent autour d'une table avec le gouvernement, parce que la population ne sent pas l'impact de l'intervention de ses partenaires étrangers vis-à-vis du domaine de la santé. Donc c'est très important par rapport à tous ces points-là. Et aussi, pour terminer, Pierrot, je pense qu'il y a aussi les problèmes de traitement de ces médecins-là, donc des corps soignants, médecins, infirmiers et tout ces gens-là. Comment est-ce qu'ils sont traités? Ils ne sont pas bien traités. Hein? Ils sont vraiment... Il y a la disparité des salaires, comme mon ami l'a dit sur la page Facebook. Il y a ceux-là qui sont bien traités et les autres pas du tout. Il y a aussi ceux-là qui travaillent, qui sont toujours considérés comme de nouvelles unités et qui ne savent pas à quel moment où ils commenceront à toucher leur salaire. Avec tout ça, ils ne peuvent pas se donner pour soigner sans problème toutes ces maladies. C'est ce qui fait que certaines maladies qui n'existent presque plus sous d'autres cieux, mais ces maladies-là refont surface dans notre pays.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous êtes à Kananga. Vous avez estimé qu'il faudrait que le gouvernement, avec ses partenaires en termes de santé, puisse définir des priorités. Faudrait-il commencer par des infrastructures? Faudrait-il assurer les traitements de qualité à ceux qui administrent les soins? Tout ça, pour vous, c'est de permettre à la population d'accéder aux soins. Et vous avez évoqué le fait que là où il y a les soins de qualité, ça coûte extrêmement cher et ça pose un véritable problème. Merci beaucoup, Maître Omar Adrien de Kananga. Ici à Kinshasa, c'est Maître Omar. Bonjour, Maître, et bienvenue.
Bonjour, très cher Pierrot et l'ami, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kinshasa.
Et vous avez suivi dans la célébration de la Journée mondiale de la santé, les soucis, c'est ensemble aujourd'hui dégager les pistes et solutions pour arriver à améliorer notre système de soins. Comment accéder aux soins de santé dans votre milieu pour vous? Faudrait-il commencer par quoi? Maître Adrien lui estime qu'il faut que le gouvernement et les partenaires du secteur de la santé définissent d'abord quels sont les vrais problèmes qui se posent au pays, quelles sont les priorités par lesquelles il faut commencer. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Pierrot, du verbe que vous m'adjugez. Comme l'a dit Maître Adrien, le droit à la santé est un droit fondamental reconnu à tout être humain, où qu'il soit. C'est pour cela que beaucoup de textes mis dans notre pays en fait un droit prioritaire. Et vous savez, en tant qu'analyste économique, que l'accès aux soins de santé constitue un indicateur sérieux du développement. Voilà pourquoi nous sommes toujours derniers en RDC, en IDH. Vous l'avez dit, Pierrot, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de lois qui obligent le gouvernement de s'occuper de la santé. Il y a également beaucoup de programmes, PNMLS, PCCI, malaria, contre-pandémie. Mais lorsqu'on essaie de faire une évaluation, une étude comparative entre ce que prévoit les lois, entre ce que ces programmes existent, nous nous rendons compte qu'il y a toujours beaucoup de maladies, des mortalités infantiles, des mortalités maternelles, des épidémies ça et là, malgré l'existence de ces différents programmes et des grands ministères de la santé. En ces jours, le bilan, à mon avis, paraît négatif parce que peu de Congolais seulement ont accès aux soins de qualité. Et le peu qui ont accès aux soins de qualité, n'est-ce pas, ce sont des gens qui sont un peu nantis. Alors la plus grande question aujourd'hui est de savoir que devons-nous faire pour relever ce défi sanitaire qui reste salutaire pour tout le monde. Moi, je pense que Makoro, il y a un problème de formation d'abord. Là, je fais allusion à celui qui doit fournir la santé. Il faut qu'en amont, qu'on puisse tenir compte de la qualité des soins qui sont assurés à soi. Je fais allusion aux infirmiers et aux médecins. J'ai lu une revue, un article de New York Times, une revue américaine. En Afrique, 70% des morts sont dues aux erreurs médicales commises par les experts à la santé. Si vous faites un tour là où on forme nos médecins et nos infirmiers, vous allez pleurer d'héros pour voir comment ils fassent des promotions. Or, la médecine est une science technique, les sciences infirmières également, mais si c'est de donner un petit rire au professeur ou à l'assistant, on fait passer n'importe qui. Ça, c'est la première des choses par rapport à celui qui doit fournir la qualité. Deuxième chose, je fais maintenant allusion aux conditions de travail de ceux qui doivent faire. Il y a certainement des hôpitaux, des enfants ont été faits. Et qu'est-ce qu'on donne à ces médecins? Est-ce qu'il y a-t-il de médicaments dans ces hôpitaux? Y a-t-il, n'est-ce pas, des matériels appropriés pour soigner? Il nous arrive d'aller dans des hôpitaux et qu'on vous dise qu'il n'y a pas tel appareil, il faut aller à l'étranger pour se faire soigner. Nous avons eu récemment un hôpital du cinquantenaire, nous avons une revue, mais combien de Congolais ont accès à cet hôpital? Et le fait des Congolais qui ont accès, il y a des fois aussi qu'on puisse les transférer à l'étranger. Donc, il y a un deuxième problème qui se pose au niveau des moyens qu'on doit accorder à ceux qui sont appelés à soigner pour relever ce défi. Troisième chose, Pierrot, la santé n'est pas que curative, elle est vraiment et surtout préventive. Voilà pourquoi on dit mieux vaut prévenir que guérir. Il faut que ces différents programmes sanitaires, les différents ministères qui s'occupent de la santé, puissent apprendre à sensibiliser la population. Parmi les mesures prévues par l'homme et pour vivre longtemps, il y a aussi l'hygiène et les précautions à prendre sur le plan sanitaire. À part la radio classique, ou certaines radios sérieuses, combien de radios passent le message pour dire à la population il faut bouillir l'eau, il ne faut pas jeter n'importe quoi dans l'environnement, il ne faut pas faire ceci, il faut que la maison soit forte pour éviter la malaria? Il n'y a aucun programme. Nous avons beaucoup de programmes, et là, c'est pas en français technique, même les 5% de la population ne comprend rien. Donc là, je fais allusion à la sensibilité de toute la population. La vraie santé, elle est avant tout préventive.
Merci. Merci beaucoup, Maître Omar. Je retiens, Maître Omar, dans votre... Oui. Voilà. Je retiens dans votre argumentation quelque chose d'important. Vous avez insisté sur la formation de ceux qui doivent travailler pour l'administration des soins, les conditions de travail, il y a les salaires, il y a les médicaments, les appareils, les matériels nécessaires pour administrer les soins, mais aussi, c'est une question transversale, en parlant de la sensibilisation sur les jeunes, c'est pas seulement le ministère de la Santé, je le dis, c'est une question transversale, il faudrait arriver à résoudre toutes ces questions dans la globalité pour vous, ça peut aider les Congolais à accéder aux soins de qualité. Merci beaucoup. Nous restons à Kinshasa avec Dr Mouyenge. Bonjour docteur, bienvenue dans cet échange. Docteur, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, nous avons eu des petits soucis avec la ligne de Kinshasa. Nous allons à tout de suite, Olivier, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs.
La journée mondiale de la santé, nous nous posons un peu de questions sur notre responsabilité et surtout ce que nous devons faire dans notre milieu pour arriver à améliorer l'accès aux soins de santé. Quel est votre point de vue?
Ok, voilà. J'ai devant moi plusieurs documents. Je vous lis un extrait. Ça, c'est la stratégie de renforcement du système de santé. Ça a été adopté par la RDC en 2010. Je vous lis une phrase. On dit, à l'évidence, sur le plan interne de la RDC, le bon sens suffit pour dire que l'organisation actuelle au niveau central à 13 directions et 52 programmes rend très difficile la fonction de coordination. Donc, je ne termine pas la phrase. Donc, c'est pour vous dire que on sait déjà qu'avec les 13 directions et avec 52 programmes, on a des problèmes. Donc, il y a un problème de coordination. On doit revoir cela. Ça, c'est un problème. Mm-hmm. Et plus loin, on dit, donc, il n'y a que des problèmes. On a déjà diagnostiqué les problèmes dans le système de santé. Alors, je voulais dire ceci. Pour corriger nos problèmes dans le domaine de la santé, nous devons agir au niveau national. Pierrot, nous avons des programmes bien établis et nous avons la stratégie de renforcement. Nous avons le programme national de développement de la santé, du développement sanitaire, 2011-2004. Des programmes bien établis. Si je vous lis les détails, vous verrez que tout est prévu là-dedans. Mm-hmm. Alors, quel est notre problème? Ça signifie que on a défini des programmes et souvent c'est avec des partenaires étrangers. Et là-dedans, il y a des choses évidemment qui viennent des partenaires mais qui nous sont, que nous sommes incapables d'appliquer. Donc ça, c'est un premier problème. Il n'y a pas très longtemps, avec la députée Bazaïba, le jour de la tuberculose, elle disait, parmi les problèmes que nous avons, il y a le budget réservé à la santé. Donc ça, c'est encore au niveau national. On doit définir le budget parce que Pierrot, je dois vous dire que quand vous venez à l'intérieur, c'est une catastrophe. Le budget, on a l'impression que les centres de santé, certains secteurs de référence, se débrouillent tant bien que mal. Ça, c'est un deuxième problème. Là, nous sommes toujours au niveau central. Au niveau local, dans les différentes provinces, il y a la mauvaise gouvernance qui est la même comme au niveau national. C'est ainsi que la petite prise du personnel est souvent détournée au niveau des différentes provinces. Alors, à ce niveau-là, il y a l'impunité. On peut identifier les détourneurs, mais il n'y a aucune action, aussi bien au niveau national qu'au niveau des provinces, c'est un problème. Je peux vous dire, par exemple, qu'au niveau des Cupid, où nous sommes, il y a un problème qui oppose actuellement la société civile avec l'autorité politique administrative. 34 millions détournés depuis quelques mois, les coupables sont connus, mais jusque-là, personne ne veut agir. Donc, ça, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre facilement. Mais un autre problème très grave, c'est la formation. Pierrot, aujourd'hui, vous avez des infirmiers, vous avez des médecins, vous avez des pharmaciens qui ne connaissent pas le minimum de ce qu'ils doivent connaître dans leur profession. Alors, je ne sais pas comment nous voulons résoudre les problèmes de santé si nous ne savons pas résoudre des questions élémentaires. La formation, c'est la première chose que nous devons résoudre. Et sur ce point-là, vous conviendrez avec moi que, avec la multiplication des universités et des instituts dans tous les villages, eh bien, ce ne sont plus les médecins et les infirmiers que nous formons, ce sont des futurs assassins. Donc voilà, Pierrot, en bref, mais il y a beaucoup de choses à dire.
Merci. Et j'ai retenu, Olivier, dans votre intervention, vous avez dit que la plupart de choses qui sont définies avec les partenaires sont définies avec les partenaires, mais on a difficile à pouvoir les appliquer. Un problème récurrent que nous avons évoqué plusieurs fois dans cette émission, c'est la modicité du budget alloué à la santé. Vous avez évoqué la malgouvernance au niveau local, national, le problème de la formation. Voilà autant de problèmes qui vous pensez, que vous estimez que ces problèmes, s'ils ne sont pas résolus, ça va nous rendre la tâche difficile dans l'amélioration de notre accès aux soins de santé. Maître Maïng, vous restez en ligne avec Simon qui est à Matadi. Vous gardez la ligne, il est temps d'accorder la parole à notre invité. Je rappelle encore que Parole aux auditeurs, c'est pas en ce 7 avril où le monde célèbre la Journée mondiale de la santé, l'occasion pour les États et leurs gouvernements d'élargir la prévention, de renforcer les soins et intensifier la surveillance des épidémies qui sévissent et ravagent les populations. La RDC compte dans son système sanitaire plusieurs programmes qui constituent des réponses à des épidémies et autres pandémies. Mais certains observateurs estiment que le niveau de prévention et de prise en charge et même la lutte pour l'accès aux soins de santé appropriés et de qualité demeure encore un problème. Que faut-il pour améliorer la situation? 081 890 6315 si vous avez besoin de nous joindre en direct.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Benoît Kebela Ilunga, qui est directeur chargé de la maladie au ministère de la Santé. Dr Kebela, bonjour et bienvenue au studio de Radio Capi.
Bonjour.
Et c'est pour nous un plaisir de vous recevoir encore. La question, c'est autour de cette célébration de la Journée mondiale de la santé. Alors, avant peut-être de pouvoir répondre, vous avez noté quelques préoccupations des auditeurs. Une question d'une manière globale, comment notre système de santé est-il organisé pour permettre aux auditeurs de comprendre avant de pouvoir aborder les questions qui sont posées directement par les auditeurs?
Merci beaucoup. Le système de santé est organisé comme ça. Vous avez le niveau central, le niveau intermédiaire et puis le niveau périphérique dans les zones de santé. Le niveau central, vous avez à ce niveau, monsieur le secrétaire général, avec différentes directions, comme ils l'ont dit, les directions normatives, et puis ces directions, vous avez des programmes qui gèrent des stratégies. Et puis au niveau intermédiaire, vous avez actuellement avec la réforme, nous appelons ça la division provinciale de la santé, et avec toute une équipe, et l'équipe d'experts qui doivent accompagner les gens de santé dans la prise en charge, dans les interventions de santé primaire. Et puis vous avez la zone de santé, là où se passe même toutes les activités. Au niveau de la zone de santé, vous avez la maîtresse de zone avec son équipage et le centre de santé au niveau des villages. Voilà en bref, c'est ça un peu l'organisation du ministère de la Santé. Chaque niveau a son rôle. Le niveau central, c'est le niveau normatif, le niveau...
définir la politique, les mesures.
Et puis vous avez le niveau des tests, le niveau d'accompagnement. Mm-hmm. Et puis les zones de santé, c'est le niveau de mise en œuvre.
Mm-hmm. Mais comme Olivier disait tout à l'heure, est-ce que la structure, elle est lourde, elle est difficile? Parce qu'il disait tout à l'heure, il a lu un document où il estime que à ce niveau ça pèse. Est-ce qu'on peut dire vraiment que ça pèse, ou bien vous qui gérez une direction qui est très importante dans la lutte contre la maladie, que ce soit au niveau central ou au niveau de l'exécution, est-ce que c'est plus facile à
mener? Non, mais je vois que chaque niveau a son rôle. Chaque niveau a son rôle, et puis si vous voyez cette organisation, nous avons calqué sur le seul stade de plein air, c'est une politique qui est une philosophie depuis des années, au niveau mondial. C'est cette politique, c'était comment arriver à définir, à permettre l'accès facile aux soins à toutes les personnes ici, on voyait l'équité, c'est-à-dire même les pauvres, bien sûr, depuis son usine a écrit ça, c'est impossible. Oui. C'est difficile de dire qu'il y avait au niveau mondial, qu'il y a une inéquité dans la division des soins. Ça, il faut le dire. C'est pas si mentionné sur les parties. Parce que, vous savez, la santé, La santé, le niveau de santé de la population, ce n'est pas seulement lui ça. La santé, la santé de la population, c'est tout le monde contribue à la santé au niveau des... Tout le monde contribue à la santé. Donc la santé ici, c'est la santé dans le vue ici, c'est comment est-ce que je peux dire, c'est là qu'il y a l'impact de tous les facteurs. Comme vous avez parlé, ils ont parlé ici de la formation. La santé subit. Quand vous avez les gens qui sont bien formés, quand vous avez les universités, on a les facs de médecine un peu partout. Quand la formation n'est pas de qualité, vous allez avoir les gens qui ne sont pas de qualité, vous voyez. Là, l'environnement aussi fait que la santé a subi. Je peux vous donner un exemple. L'autre pays a une richesse très élevée au niveau de l'environnement. Nous avons les facteurs environnementaux et puis qui sont très riches, qui favorisent l'éclosion des maladies émergentes. Et l'émergence, c'est le milieu du pays, avec la focus de rôle à la grande forêt, nous avons une hydrographie riche. Tout ça fait qu'il y a des problèmes au niveau de la santé. Hein, c'est, la santé, c'est lui surtout pour les maladies transcendantes accessibles. Il faut dire que notre environnement est favorable à ça. Mm-hmm. C'est l'environnement qui est favorable à ces épidémies.
Voilà. Et quand M. Adrien de Kananga dit, bon, on observe une résurgence de certaines épidémies, vous qui gérez vraiment ces domaines, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de maladies qui avaient disparu, qui reviennent, ou quand même il y a un certain niveau d'intervention qui permet quand même aussi de faire face à certaines épidémies?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous avons notre écosystème est favorable à toutes ces maladies-là. Même dans la dysmétrie que nous avons Ebola, bon, les maladies qui jadis étaient contrôlées. Je prends l'exemple de la transoméase, elle était contrôlée jadis. Bon, après, bien sûr, j'ai eu, après l'indépendance, un relâchement. Un relâchement qui a fait que les autres maladies, à l'époque, étaient contrôlées. On a vu les soins de ces maladies. Mais après, maintenant, quand on a changé la politique, on a mis une nouvelle politique, on est arrivé à les contrôler. C'est-à-dire, on est arrivé à les contrôler quand même parce que je prends la maladie du sommeil. Quand il y a eu l'indépendance, le taux de fixation était de 0,01%. Mais après, c'est élevé. Et quand on a mis le litre, le taux de 0,02, on a quand même réussi. Et puis, ce que vous devez savoir pour toutes ces maladies, c'est une maladie transmissible. Il y a aussi la contribution de la population. Je suis d'accord avec ces personnes qui n'ont pas de
sensibilisation.
Quand la population ne contribue pas, il est difficile que vous arrivez à contrôler les maladies, petites maladies, même les maladies non transmissibles. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies, c'est dû à notre comportement, dû à nos comportements. Donc là, il faudrait que la population accepte de changer le mode de vie.
Mm-hmm.
Et là, pour que vous ne pouvez pas arriver à contrôler les maladies seulement par des méthodes médicaux. Non. Médicales. Vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver à contrôler les maladies c'est seulement par avec une approche médicale. Non. Les maladies, pour les contrôler, il faut l'approche communautaire. Il faut que la population puisse coopérer. Quand la population, quand vous avez pour avoir la collaboration de la population, il faut que la population puisse s'intégriser, même s'approprier même des méthodes. Sinon, vous n'allez pas réussir. Un exemple que vous savez, c'est que vous voyez les problèmes qu'on a eu, par exemple, d'Ebola et d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ce n'est pas la plus difficile? La population ne coopérait pas. Pourquoi arriver avec toutes les méthodes sensibilisées, dire aux gens, voilà ce qu'il faut faire pour éviter. Mais s'ils ne coopèrent pas, vous n'allez pas réussir. Donc, dans le contrôle des maladies, surtout les maladies transmissibles que nous avons, qui a une charge chez nous, toutes les maladies, une maladie épidémique, il faut vraiment insister sur la contribution, sur la collaboration de la population. Je vous donne un exemple. Prenons la rougeole qui va être accessible. La rougeole, on sait que c'est une maladie, vous savez, chez les enfants, vous avez une transmission directe. Mais on peut arriver à arrêter ça par la vaccination. C'est que l'on même nos mamans savent ça. Vous avez avec le vaccin. Mais si la population ne veut pas utiliser le vaccin, est-ce que vous l'avez reçu? Vous n'allez pas reçu.
Et tout à l'heure, vous avez dit que la santé subit quand on parle de la formation des universités qui s'est créée. Et vous qui gérez le quotidien, ces maladies, et vous qui avez des gens qui doivent en principe vous aider à faire appliquer la politique souterraine au niveau des centres de santé. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a ces universités qui naissent, ces ITM, ces ISTEM, et où les gens sont mal formés, tout en sachant que ces gens qui sont mal formés vont vous rendre la tâche difficile à pouvoir lutter sur le terrain. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que fait le ministère de la Santé par rapport à cette question? C'est une question très importante.
Là, il faut prendre le ministère de la Santé, parce que même dans, il y a quelqu'un qui a dit, il a dit lui-même dans nos... Quand on a fait les enjeux du secteur, nous avons relevé ça. Même actuellement, nous venons de terminer pour la nouvelle version, on a relevé ça. Là, c'est notre ministère. Le ministère de la Santé utilise les produits qui sont fabriqués ailleurs. Vous comprenez? Le ministère de la Santé, c'est l'utilisateur. Les produits sont au premier combat. Là, on forme les produits. Mais c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Il faut faire attention. Les gens sont formés, ils sont fabriqués ailleurs. Nous, nous utilisons. En fait, on utilise. Et ça peut être que le gouvernement utilise, si les privés utilisent. Mais bien sûr, ça, c'est bien fait. C'est nous tous qu'on doit, mais je pense que nous tous, c'est vers le ministère de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? C'est le ministère de l'enseignement. Pourquoi c'est. Vous arrivez une année où il y a un ministre qui a eu le courage de fermer certaines facultés de médecine, et puis après, on l'a vu après. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas tout mettre au niveau du ministère de la Santé. Non.
Non, ben, là, je ne dis pas que le ministère de la Santé endosse les
subis. Oui. C'est ce j'avais dit côté formation. Bien sûr, on fait le focal, vous avez les gens qui viennent, on fait le fond, on fait des recyclages, on fait tout, on le sait pour les mettre quand même à niveau. Là, on fait le fond. Moi, je pense que la santé, la vie de la santé, c'est l'aspect de tout le monde. C'est pas le ministère, c'est tout le monde. Et le ministère de la Santé et les autres ministères et la population.
C'est pour ça que je pense qu'on a la question à travers ça. Mais avant que d'autres auditeurs, Olivier est revenu sur la question des partenaires. Et il est dit que la politique qui est conçue, beaucoup des stratégies sont définies par les partenaires.
Non, pas
définies par les partenaires, par la RDC.
Pas du tout. Les politiques, c'est nous qui définissons, ce n'est pas les partenaires. C'est nous qui définissons les politiques. Nous définissons comme ils l'ont comme eux-mêmes, ils ont défini tout à l'heure quand ils ont fait.
Exactement.
Ils ont fait des dons, c'est l'antique. J'ai suivi un qui a bien parlé. Qui a fait des annonces, et puis qui a même proposé des solutions.
Oui.
Et c'est nous qui faisons. C'est nous qui le définissons. Bien sûr, nous le faisons en partenariat, c'est-à-dire en collaboration avec les partenaires.
Mm-hmm.
On le fait ensemble avec eux. Parce que quand nous allons mobiliser, on les mobilise avec eux. Aucun pays au monde de cette année qu'on ne vous tourne pas, qui arrive lui-même à faire la santé, non, c'est un problème international. Si vous avez aujourd'hui l'épidémie d'Ebola, vous ne pouvez pas arriver à y aller. Quand on a eu les premiers déstats au monde mondial, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à faire l'international.
Mm-hmm.
Le monde de l'Est était un village. si c'est votre voisin, un problème, vous le laissez. Ça vient de chez vous. On a vu avec les Ebola qui a commencé en Guinée, qui a pu partout, qui est arrivé même aux États-Unis partout. Mm-hmm. Le problème de santé, ce n'est pas un problème d'un seul pays, c'est le problème mondial.
Et dans la définition de la stratégie, est-ce que la méthode aujourd'hui, c'est quoi? C'est au niveau de Kinshasa, au niveau des bureaux, parce que les auditeurs nous disent souvent, mais écoutez, on décide des choses à Kinshasa, qu'on nous amène ici. Non. Est-ce que vous avez aussi la politique d'associer le niveau de la base pour dire, voilà, le problème qui se pose, comment on peut le résoudre en associant bien sûr la base en termes
voilà
de...
Voilà comment c'était la chose. Quand nous élaborons les politiques au niveau des pays, c'est tout ça, les terrains, le plan. Les travaux commencent au niveau des zones de santé.
Mm-hmm.
C'est un processus ascendant. Les zones de santé, quand ils ont de la matière, et de là, ils montent à notre niveau.
Mm-hmm.
À ce niveau, vous les faites, nous les faisons avec eux. Et puis quand on est terminé, vous envoyez, on les renvoie.
Mm-hmm.
La politique s'est fait, et puis même la mise en œuvre, ce n'est pas le niveau central. C'est le niveau, les niveaux central ne peuvent arriver au niveau intermédiaire pour se rendre compte que c'est le respect des normes. Et puis les nouveaux intermédiaires accompagnent toutes ces réformes, c'est l'accompagnement des gens de santé pour dans la mise en œuvre.
Mm-hmm.
Et nous ne faisons pas de choses, on ne peut pas faire de choses sans pour autant intéresser les bénéficiaires.
Mm-hmm.
La matière vient des nouveaux périphériques, le niveau le plus bas.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de choses qui sont faites ici pour imposer un niveau. Non.
Mm-hmm.
La méthode, c'est une méthode d'une approche ascendante. C'est pas de la zone de communauté, la zone de santé, la zone de santé. Vous avez les DPS et puis au niveau. Si vous faites des choses, vous allez imposer les gens à la mise en œuvre s'ils n'ont pas participé.
Mm-hmm.
Ah, ça, non, c'est pas possible.
Voilà, nous avons plusieurs les débats sur la page Facebook des paroles aux éditeurs Fortuna Ilunga. Ngongo Bukele nous écrit, dit, mais écoutez, comment on peut avoir une bonne santé? Moi, je suis étudiant ici, j'habite le home de l'ISP Kananga Kamaï, il n'y a même pas de robinet, nous vivons nous consommons l'eau qui n'est pas potable, comment dans ces conditions on peut arriver à avoir une bonne santé? Merlin Shinga dit ceci, je trouve qu'il est tellement difficile aujourd'hui d'améliorer la situation dans les sens que dernièrement on a eu beaucoup d'informations sur les détournements des fonds publics dans les domaines de la santé. Il faudrait qu'on puisse punir. Alors voilà, c'est la question aussi évoquée tout à l'heure par Olivier sur la lutte contre l'impunité dans le détournement de ce qui est affecté dans le domaine de la santé. 081-899-6315 sur pause. Avez besoin de nous joindre en direct.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Maître Maïngue, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange. Maître Maïngue, vous êtes avec nous? Dommage qu'apparemment Maître Maïngue dit très sous sa ligne. Simon, vous êtes à Matadi, dans le Congo central. Bonjour Simon.
Oui, bonjour. C'est Simon Tsilulu de la Société Civile Congo Central à Matadi.
On vous écoute, Simon.
Oui, en fait, la constitution de notre pays, dans son article 47, définit quand même les droits à la santé et à la sécurité alimentaire. Et ces devoirs incombent au gouvernement, sinon à l'État congolais qui gère l'argent de la population, de pouvoir mettre en place les conditions nécessaires pour que la santé soit à la portée de tous. Mais dans nos milieux ruraux, par exemple, plusieurs de nos compatriotes meurent. Mère, beaucoup d'ailleurs, même les femmes pour accoucher, parce que il y a trois points importants qui amènent nos confrères et nos compatriotes à la mort. D'abord, soit par manque de soins de santé de qualité dans les milieux ruraux, même certains milieux urbains, soit par manque d'accessibilité facile ou d'accès facile à la santé, parce que faute de la... Quand vous voyez la carte sanitaire, par exemple, de ma province, donc la carte sanitaire, donc la situation d'un patient au lieu où il devrait aller suivre la santé, ou au lieu où il y a un centre de santé, cette distance, les gens mettent plus de gens. Et la troisième, c'est soit par les prix exorbitants de la facture demandée ou sinon des produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne que dans plusieurs centres de santé, les malades ne sont plus patients, sont maintenant aujourd'hui appelés les clients. Ils ne sont plus patients. Dans ma province, par exemple, quand vous prenez le nombre de médecins reconnus par l'État congolais, parce que nous sommes une nouvelle société civile qui parle avec des données, il y a 427 médecins, toute la province. Et si vous divisez 53 920 km par 460 km, vous trouverez que par 126,3 km, on a un médecin. Donc, vous prenez une surface de 126,3 km pour un médecin. Et par rapport à la population qui approche 5 millions d'habitants, soit pour un médecin, on a 11 820 personnes pour un médecin. Ce qui donne l'espace à la prolifération des charlatans de cette médecine traditionnelle de 6 ans que les gens prennent faute de tout ce que j'ai énuméré. Le cas récent, par exemple, la fièvre jaune de l'Angola. La fièvre jaune, notre province fait partage une longue frontière avec l'Angola. Récemment, d'ailleurs, pour votre information, la fièvre jaune qui sévit en Angola a été découverte, son existence a été découverte ici chez nous, à Loufou, frontière de Loufou. Il y a un jeune médecin, selon les investigations, c'est le docteur Francine Dombolo, qui a remarqué 3 cas suspects. Il appelle l'Angola pour demander s'il n'y avait pas une maladie quelconque. L'Angola a dit non. Et ils ont pris les symptômes, les données, tout ça, ils ont envoyé à Kinshasa. On a vu, on a senti que c'était la fièvre jaune. C'est dès lors que l'Angola a compris qu'il y avait la fièvre jaune. Donc cette maladie qui tuait les gens en Angola, c'était la fièvre jaune. Mais ce médecin, quel est l'équipement a-t-il aujourd'hui? Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent.
Et alors, pour cette question, Simon, celui qui est avec nous sommes dans ce studio, c'est le gestionnaire même de ces questions, de ces épidémies qui se déclenchent, on va lui poser la question. Mais ce que vous avez dit, c'est quand même important. Le manque de soins, l'accès, l'accessibilité, hein, aujourd'hui la distance entre un hôpital et la population, c'est une question qu'il faudrait résoudre, et le coût aussi. Alors, en parlant des chiffres, hein, c'est ce qu'Alain Bolloge nous disait tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, en disant que le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, c'est la répartition géographique des centres de santé et surtout de médecins dans le pays. Un ratio de médecins de 17 746 malades pour un médecin, alors que la norme pouvait être des 10 000, la capacité d'accueil dans les hôpitaux, 10 lits pour 5 000 habitants. Voilà autant de questions qu'il faudrait aujourd'hui résoudre. Merci, mais pour la question de la fièvre jaune, on a la personne attitrée qui peut nous expliquer comment ça a commencé, où nous en sommes aujourd'hui, et est-ce que la RDC est aujourd'hui en danger, quelles sont les mesures qui sont prises. Cette question sera traitée tout à l'heure. Merci beaucoup, Simon. Rocky, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, Rocky.
Oui, bonjour Pierre, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Rocky.
Oui, moi je vais vite m'atteler peut-être sur ce que vient de dire mon prédécesseur. Si peut-être les malades viennent au centre de santé, ils ne sont plus considérés comme des patients, ils sont vus aujourd'hui comme des clients. Bon, comment voulez-vous vouloir un truc que l'État congolais ne veut pas prendre les consignes en charge, les gens ne sont plus payés. Il y a ceux-là qui travaillent 10 ans, ils ne sont plus payés, ils n'ont même pas un numéro matricule. Alors, je vais poser à l'invité une seule question. Je prends l'exemple de la malaria. Nous avons avec nous une molécule qui est placée, qu'on appelle ACTH, artisanate amodiaquine. Avec cette molécule, on constate beaucoup d'effets secondaires qui surgissent sur les malades. Vous donnez aux malades cette molécule, les malades vous reviennent avec l'hypotension, beaucoup de signes. Peut-être que vous manquez une maîtrise de maîtriser la famille. Bon, une autre famille peut vous acharner sur vous, ou soit vous avez maltraité notre malade, des histoires comme ça. Jusque-là, le PNLP avait donné tout un programme sur la quinine, on ne sait pas. Quelle molécule pouvons-nous recourir? On se base sur l'artisanat amodiaquine ou soit on recourt toujours à la quinine? C'est ça, ma question.
C'est une question très très importante, Rocky, hein, mais vous estimez que le problème aussi est lié au fait que les infirmiers, les corps soignants ne sont pas assez mieux traités, ils ont transformé le malade. ce n'est plus des patients, ce sont devenus des clients, parce que là, il faudrait avoir de l'argent pour accéder aux soins. Mais là, le problème du traitement de la malaria, l'invité pourra nous expliquer quelle est la conduite à tenir aujourd'hui d'une manière exacte quand vous avez un malade qui se présente chez vous avec la malaria. Merci beaucoup. Barnabé, vous êtes à Bokungu. Bokungu, c'est où actuellement? C'est l'Équateur, c'est le sud au Bangui, c'est où Barnabé?
Oui, je suis en ligne, monsieur. Bonjour.
Bonjour, vous êtes à Bokungu?
Oui, Bokungu, c'est un des territoires de la nouvelle province de la Top.
Ah, voilà, on vous écoute, Barnabé.
Oui, ma réaction est par rapport à ce que nous sommes sur la table maintenant. Donc, nous, à notre niveau, moi, je vois le problème qui se pose au niveau de la santé, c'est un problème de la conscience professionnelle. Monsieur le journaliste, il se pose un sérieux problème chez nous ici par rapport au personnel soignant. Comme mon ami vient d'évoquer, donc, un malade peut arriver à l'hôpital tellement que le personnel soignant n'est pas rémunéré, donc le malade est abandonné. Ce que nous remarquons chez nous ici, par exemple, parce que quand vous prenez sur le nombre de gens qui sont payés, donc les salariés sont à 40% chez nous, et les gens qui ne perçoivent pas les salaires sont à 60% et ne vivent que de la prime de risque. Et cette prime de risque peut faire au moins 3 ou 4 mois n'atteint pas les zones de santé. Voilà le grand problème que nous constatons.
Je suppose à Bokungu. Merci. Et... merci beaucoup, Barnabé. La conscience professionnelle, par le fait que beaucoup travaillent sans être reconnus, on peut dire ainsi, ils n'ont pas les numéros matricules, Rocky le disait tout à l'heure, et ils dépendent de la prime des risques. Et quand la prime n'arrive pas, ça pose un sérieux problème dans leur engagement pour soigner les malades. On va terminer avec vous, Sonny. Vous êtes en Bujima, et puis on va revenir dans ce studio. Sonny, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, JF. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de la radio Capi, bonjour aussi à l'invité.
Vous avez suivi plusieurs pistes de solutions pour arriver à améliorer l'accès aux soins de santé. Quelle est votre contribution?
Moi, à mon niveau, je voulais mettre un peu l'accent sur certains points, notamment l'accueil même des malades quand ils viennent à l'hôpital. Vous allez retrouver... On met réception, mais normalement, on doit accueillir. Alors, quand on va l'accueil, on voit, quand vous êtes bien accueilli, vous êtes sûr de ce qu'on doit vous administrer, tout ce qu'on va vous demander, vous pouvez vraiment placer confiance. Mais dans nos milieux, on constate que dès qu'un malade arrive, vous trouvez qu'il est là abandonné, il ne sait pas où s'adresser, il est là, il fait un jour sans toutefois voir le médecin, il rentre fatigué, transport, tout ce qu'il prend. Ça lui fait fatiguer. Vous vous rendez compte qu'il va aller se débrouiller peut-être à l'église ou bien où il peut aller et notre qualité des soins ou bien la santé comme on vient de parler, on est en train de diminuer un peu cette qualité. Et la deuxième préoccupation, c'était concernant les suivis aussi de nos autorités médicales. Vous retrouvez sur le terrain, on place les gens qui ne viennent pas régulièrement. Vous êtes dans des structures médicales, mais la supervision qui n'arrive pas, on ne supervise pas pour connaître ce qu'on fait, c'est quoi, et la normalité c'est quoi, le principe c'est quoi, mais le mois termine, un autre mois termine, mais on fait chercher seulement le rapport. Vous mettez sur papier des chiffres, des histoires que vous avez fait, on prend ça, on amène. On ne sent pas vraiment qu'il y a quand même des suivis.
Mais cette question est vraiment importante, Sonny, hein, la supervision, on voit au niveau des centres de santé, les zones de santé, on devrait avoir quand même, vous dites, il faut déparer que les gens envoient des rapports qui ne sont pas vérifiés sur terrain. Merci beaucoup. Nous revenons à vous.
Allez-y rapidement. J'ai demandé à notre invité, je ne sais pas, dans des coins reculés de nos provinces, vous trouvez, il n'y a pas un technicien de labo, il n'y a pas de test pour tester. Mais vous trouvez qu'on a transfusé, il n'y a pas un technicien de labo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut conseiller un peu aux professionnels de la santé.
Voilà, transfusion dans les milieux où il n'y a pas de laboratoire ni du matériel. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, docteur Benoît Kébéla Ilunga. Je crois que Simon est revenu sur les questions que nous avons évoquées, mais il a évoqué la situation de la fièvre jaune. C'est vraiment une occasion aussi d'en parler. Comment il estime qu'il y a Salopo, il y a un médecin qui a découvert.
Non, c'est pas vrai. Moi, je vais essayer dirais toi, donc, globalement, les qualités de soins. Bon, ça va être calé de se dépendre des niveaux de formation, de cycle. Donc, ça dépend aussi, c'est lié à la présence des médicaments, c'est lié même au réseau d'infrastructure, tout ça fait pas la qualité des soins. Il faut dire que tout ce qu'ils disent, c'est bien ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien de nouveau de ce qu'ils disent. Il faut quand même voir, le gouvernement fait quand même un effort. Je crois que si vous le savez, on est en train de construire. On construit le bâtiment pour qu'on puisse rendre l'environnement agréable. Et aussi les médicaments. On fait quand même un effort. Il faut reconnaître qu'il y a un effort qui a beaucoup de points, mais il y a un effort qui est fait. Je prends un exemple pour les gens, vous savez, que le gouvernement actuellement, c'est lui qui paye le vaccin pour les enfants. L'année passée, plus de 3 millions que le gouvernement a dépensé pour le vaccin pour les enfants. Il y a quand même des choses qui sont faites, mais les problèmes, c'est énorme. Il faut les reconnaître. Mais l'accès aux soins, quand vous mettez les services qui comprennent tous et qui comprennent tous tout ce que vous avez comme indicateur de la qualité, il faut voir l'accès. L'accès aux soins, alors vous avez l'accès géographique, il y a la distance, vous avez l'accès financier, comme on dit, mais il y a aussi l'accès culturel. Culturel, parce que pour l'utilisation des services de soins, ça dépend de celui qui doit utiliser. Moi, j'étais sur des zones de 8 ans dans une province, dans une zone de santé. J'ai travaillé 18 ans de l'urinal, je sais ce que ça veut dire. Pour pouvoir voir les structures de soins bien faites, mais les gens ne viennent pas et vous disent avant de venir, parce que tel lui a dit, il faut aller voir tel, après pouvoir qualifier celui qui lui dit, il faut aller à l'hôpital. Et il y a tout un travail à faire à ce niveau. Moi, je pense, il faut se dire que le problème de santé, je ne comprends pourquoi ils ne s'en parlent, c'est bien, là, ça ne sera pas depuis. Mais si nous voulons vraiment que nous puissions arriver à un niveau de la santé, c'est le problème de tout le monde. Mais tant qu'on voit la solution de santé, ce n'est pas moi, c'est en dehors de moi, là, on ne peut pas. Parce qu'il faut que la prise de conscience de tout le monde, et la population, les autorités, même la société civile, qu'est-ce que je dois faire pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé, pour que ça soit de qualité, et même cet accès qu'il y a le problème barré, enlever la barrière culturelle. Le problème de santé, c'est un problème de tout le monde, c'est pas le problème, c'est le ministère de la santé. Vraiment là, je sais pas que quand les gens parlent de la santé, souvent c'est la faute à une ordre de nous. C'est le gouvernement, c'est elle. Mais on se pose pas la question, qu'est-ce qu'il doit faire? Si la santé au niveau de l'Europe est améliorée, ce n'est pas. Là, ce n'est pas les antibiotiques. Non. C'était cet habitat, cet environnement, et ces comportements élevés, et cette prise de conscience de la population élevée, et qui a fait que ils ont une amélioration du niveau de santé, la santé qui n'est pas seulement l'absence des maladies. Hein, c'est comment sont les définis, quoi. L'état des bien-être, le mental, physique, moral, tout ça. Vraiment, j'insiste que les problèmes de santé que les gens mettent en tête, c'est pour tout le monde. Ça ne sert à rien de dire. Quel est le ministère de la Santé? Non. Qu'est-ce que moi je fais là où je suis, société civile, pour que les soins soient de qualité, pour que les gens utilisent les soins? C'est ça. Et si on ne fait pas ça, on va se demander. Et puis, bon, j'ai continué en disant ceci. J'ai dit aussi, faites attention avec les chiffres que j'utilise. Quand vous dites, voilà, 526 km, il n'y a pas de médecin, ou vous voyez 126 km, vous avez n'habité pas bien. 128 km, il n'y a pas de gens, on va pas faire, il faut faire attention. Même si nous prenons, nous savons que si nous prenons, c'est que nous savons. Il y a une description qui n'est pas équitable de médecins au niveau du pays. Il y a plus de médecins constatés au niveau urbain qu'au milieu rural.
Ouais. Ça, c'est vrai.
Là, on le fait l'effort, nous savons. Vous avez, il m'a fait des comptes à ça. Il y a 10% de toute la population du pays. Bon, si on prend 12 millions, ça peut être 12 millions à Kinshasa, tous les pays, c'est 80 millions, ça peut être même. Prenons 15% de tout le pays. Il y a Kinshasa, vous n'avez plus de médecins. C'est l'intérieur, vous avez 80% des médecins du pays qui est à Kinshasa. Vous faites les paquetas. Vous comprenez? Là, nous sommes conscients, il faut qu'on arrive à. Comment fait-il l'équité? Il faut que la douce équitable pour le reste. Et puis, pour la fibre zone, je vais arriver à la fibre zone.
Oui.
La fibre zone qui est en Angola, qui s'est vue en Angola, c'est une fausse épidémie. Ce n'est pas la médecine des groupes qui a. La fibre zone a commencé au mois de décembre en Angola, dans un faubourg du Rwanda. Et puis après, au mois de janvier, au mois de février, ça se faisait commencer à se faire. Pourquoi ça y est ça? Il y a eu tous ces problèmes, il y a eu un problème de gestion, des soins de faubourg dans l'Angola qui a fait qu'il y avait une multiplication de facteurs index. Et qui a fait, nous suivions ça, qui a fait que, il y a eu des cas et puis on a commencé à vacciner. Ça n'a rien à voir avec la médecine de l'eau. Non, pas du tout. Et puis après, comme tous les pays avec le MES, nous sommes en communication, on a été informé, mais on a pris toutes les mesures ici. On a fait les mesures, nous avons renforcé le surveillance au niveau des pays, on a renforcé le surveillance au niveau des frontières, et même je crois que la semaine prochaine, moi j'ai fait bien comme ça. Nous avons des cas qui sont arrivés. Tous les cas que nous avons, au niveau des pays, c'est un peu environ, bon, si je mettons par exemple, c'est ça, vous avez les parties, c'est Kinshasa, vous avez des cas qu'on a vu à Kinshasa, vous avez des cas qu'on a vu à Kintete, à Sonampango, à Matadi et à Mwanda. Mais tous ces cas, c'est ce qu'on appelle des cas importés, des cas de jeunes malades.
Mm-hmm.
Mais en matière de fièvre jaune, qu'est-ce qu'il faut craindre? Il faut craindre ce qu'on appelle la transmission locale. Parce que la fièvre jaune ne se transmet pas par contact moi avec toi. Il faut un vecteur. En fait, un moustique qu'on appelle Aedes,
mm-hmm.
le même moustique tigré qu'on vous a parlé, il transmet les cicales, même là. C'est le même moustique. C'est le moustique, l'Aedes. Il transmet, il pique, quand il pique un homme malade, il pique un homme sain, il transmet la maladie.
Mm-hmm.
Et puis tous ces cas qu'on appelle, tous ces cas sont venus chez nous. Ils sont venus à un stade qu'on appelle la stade toxique. C'est le stade avec éther. Et souvent, ces stades-là, il n'y a presque plus de virus dans le corps. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il faut faire un travail tout autour de ces cas pour détecter s'il y a des cas possibles. Mm-hmm. S'il y a des cas possibles, on va réfléchir comment on va aller pour la vaccination. Donc, il y a la fièvre jaune en Angola, oui, mais chez nous, on n'a pas encore une épidémie de fièvre jaune. Ça, il n'y en a pas.
Et quelques personnes qui sont arrivées, ils sont venus de la boîte. Rapidement, parce que là, on est bousculé par le temps. Notre famille Rocky s'inquiétait par rapport à la stratégie dans la lutte contre les paludismes.
Je peux vous dire contre les paludismes, bien sûr, actuellement, pour contre les paludismes, on utilise souvent les dégâts. C'est deux molécules, comme vous savez, dans ces cas de la CT contre les pâles, vous avez l'antigénate, puis c'est la modakine. Donc, bien sûr, les gens vous disent, certains vous disent, sinon ça fait les démangeaisons, tout ça. Beaucoup de gens racontent, c'est comme tout le médicament peut faire ça.
Donc, mais sinon, c'est encore le médicament qui est.
Oui, parce qu'il faut prendre tous les coups. Il faut éviter la résistance. La quinine, comme les gens le prennent, il n'est pas possible de prendre la quinine à tout moment. La quinine, nous les réservons pour les cas de compliqués de paludisme.
Mm-hmm.
Mais quand les gens ils prennent, comme c'est le pas bien, on ne peut pas dire
ça. Alors, avant d'écouter les deux derniers auditeurs, il y a Soli qui. Est-ce que vous sentez qu'il y a un problème de faiblesse de supervision aujourd'hui? Il y a des rapports qui sont transmis, comme je disais, il n'y a pas de services qui passent, mais on travaille, et puis après, on envoie tellement de
choses. Il y a des gens qui racontent des choses. La supervision, en fait, au niveau, si on voit, pour au niveau des hommes, ça ne parle pas de débat. Toute la réforme, vous nous en sommes là.
Mm-hmm.
C'est la raison pourquoi. C'est pour renforcer la compagnie des hommes de santé dans la mise en œuvre. Tout ce qu'on fait, mais toute la réforme, tout ce que vous voyez, nous, les DPS, c'est cet accompagnement.
Mm-hmm.
Maintenant, on a même, on appelle des accompagnateurs.
Mm-hmm.
Non, les suites sont faites, bien sûr. Je ne peux pas dire que c'est fait si on a prévu 10 prévisions, on en fait 80, non, 10 plus 20, on peut en faire 50. Mais on fait des choses, c'est
ça. Il y a quand même un travail qui s'est fait.
Oui, il faut
voilà. Écoutons le deux derniers rapidement. Alors, on a 40 secondes à chacun. Jean-Claude, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Pierrot.
Voilà, dommage que vous interveniez vers la fin de l'émission, qu'on a qui est 45 secondes, je crois, bientôt au plus 48. On vous écoute.
Bon, moi, je voulais seulement appuyer tout ce qu'on a dit, et puis j'appuie aussi l'invité qui dit que le problème de santé, c'est un problème de tout le monde.
Mm-hmm.
Mais nous devons d'abord commencer à assainir notre milieu là où nous vivons. Moi, je vis dans un quartier ici à Bandal. Vraiment, je suis suffoqué par les fausses sceptiques de mes voisins.
Mmh.
Et comment est-ce que je peux avoir une bonne santé? Celui de gauche me colle sa toilette à ma fenêtre. Celui de derrière me colle sa toilette à notre mur mitoyen. Leurs fausses sceptiques sont pleins. Celui à droite, il a, la fois passée, la fosse sceptique était pleine, il a dégagé sur la route croyant que la pluie devait tomber, mais la pluie n'est pas tombée sur lui. Vous voyez des histoires comme ça, vous n'allez pas dire, ce n'est pas l'État qui doit venir faire ça pour nous.
Et
voilà,
et
je voulais juste signaler,
vous l'avez dit, c'est une question.
Il nous apporte beaucoup d'informations.
Voilà, merci beaucoup. Dieu merci, vous êtes à Manono. En 30 secondes pour vous, votre intervention, Dieu merci.
Sans problème, je peux aller rapidement.
Oui, allez-y. So,
moi, je voudrais seulement demander à notre invité comment nous sommes dans les territoires du Manon. C'est qu'on va ce territoire zéro qui n'a que trois zones de santé. Et trois zones de santé est égale aux trois hôpitaux. Mais jusque-là, il y a des gens qui doivent faire 10 km pour trouver là où il faut accoucher. les mamans souvent. Et parfois, il y a ces celles qui meurent dans la route. Ensuite, nous avons le problème. Il y a le problème du VIH, il y a le problème du paludisme. Dans le territoire du Maroc, il n'y a jamais eu de sensibilisation. Ça, je vais vous dire, c'était pour les VIH. Mais les gens disent non, pour le fond d'Afrique, financer telle organisation. Même, il n'y a même pas une
petite. Et je pense que vous voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu merci. Dommage, je ne sais pas parler plus loin parce qu'il faudrait que l'invité puisse conclure. 3 ans de santé seulement dans les territoires des Manonos, 3 hôpitaux des références, et il faudrait plus de 10 km pour aller accoucher. Vous n'avez jamais vu des gens sensibilisés, même pour les veilles SIDA, dans votre milieu. On revient à vous, docteur Benoît Kébé.
Je vais répondre à ce qu'a notre ami de M. Kébé. Moi, je pense que vous avez trouvé la mise en œuvre sur les zones de santé. Les zones de santé, vous avez le centre et les centres de santé. Mm-hmm. Vous avez le centre de santé dans le village. Bon, moi, je pense qu'on fait les choses, mais il n'est pas au courant. Puisque même la sensibilisation est donc sur nouveau la zone de santé, les gens de santé le font. Donc, l'hôpital, les gens de référence, on voit ce qu'on appelle le système de référence. Quand c'est un cas au niveau des gens de santé, on trouve un cas qui dépasse, il y a des critères pour les référer au niveau de l'hôpital général. Mmh. Même concernant l'accouchement des femmes, il y a aussi une stratégie pour ça, le début de la maternité. Mais au niveau, il y a formation de maternité. Bon, maintenant pour terminer,
en 30 secondes.
En 30 secondes, je dirais que pour le sens, en 30 secondes, mon message, c'est le message Jean-Claude. C'est très clair. C'est-à-dire que pour la santé, la santé, pour éviter la maladie, il y a les méthodes préventives. Et puis après, quand la maladie éclos, vous avez les méthodes curatives. Mm-hmm. Mais une grande partie des maladies, ce n'est pas les méthodes préventives qu'on fait arrêter les maladies. Je prends l'exemple de cette ville, quand nous parlons de fièvre jaune. Mais si nous avons ces comportements que nous avons partout, il y a des lots, nous étions n'importe où partout, c'était le gouvernement d'Angola, il y aurait une explosion de fièvre jaune dans cette ville. Même le choléra. Donc, je pense, en un mot, le plus santé, c'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse coopérer au lieu de voir la faute en dehors de nous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kébéla Ilunga, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur chargé de la maladie au ministère de la Santé. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire ce magazine qu'on va retrouver sur www.radiocapi.net. Au revoir.